J'ai simplement voulu prouver à ma population qu'il y avait possibilité d'une région touristique d'en tirer une fois le maximum. Eh bien, nous sommes arrivés à en tirer le maximum. N'est-ce pas? Il n'y avait plus de cigarettes à trouver, il n'y avait plus de canif, il n'y avait plus de peigne, il n'y avait plus de potage en boîte à trouver. N'est-ce pas? Il a fallu venir à grand renfort de ravitaillement. Eh bien, je trouve ça sensationnel, c'est tout. Alors, vous savez, multiplié par 20, par 30, la population d'un village de 957 habitants, eh bien, il fallait risquer le paquet, ben on l'a réussi. Ça, c'est ma victoire.
Box. L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Un événement du passé mis en récit par un texte, des archives et des musiques choisies chaque samedi à 19h sur France Culture. Voici Jukebox, bonsoir à tous. Ce soir, retour il y a 50 ans, en 1969, dans le bouillonnement de la jeunesse occidentale. Tandis qu'en août se tient l'immense kermesse hippie et rock de Woodstock, la jeunesse européenne, elle aussi, a soif de rassemblement. Certains rêvent d'une grande messe musicale en France. Niet, répondent les autorités, encore échaudées par le chaos de mai 68. Et après de longues tergiversations, c'est finalement un petit village de Belgique qui accueille la manifestation. 5 jours durant, Amougy verra défiler près de 100 000 spectateurs et nombre des figures du rock progressif d'alors, des Pink Floyd à Frank Zappa, Ten Years After ou bien du free jazz. C'est l'histoire de ce festival effacé des mémoires, de ce mélange des genres et de ces 5 nuits marathon que nous vous raconterons. Ce soir, Amougy 1969, le Woodstock franco-belge oublié. Avec ses 141 mètres de haut, le mont de l'Enclus est l'un des rares reliefs de ce plat pays que serait la Belgique. Régulièrement emprunté par les courses cyclistes, ce discret relief marque également la frontière entre la Belgique flamande et la Wallonie. De son sommet, on aperçoit de verts pâturages où paissent moutons et vaches, des forêts de hêtres et, perdus au milieu de ces champs, quelques villages, parmi lesquels, à un jet de pierre, Amougy. Ameseils en flamand. 957 âmes, cette année 69, une douzaine de rues parsemées de petites maisons de briques et une église romane de Saint-Bavon dont les cloches sonnent à chaque heure. Le début d'automne a été plutôt sec, mais annonçant l'imminence de plusieurs tempêtes qui balayeront bientôt la zone, l'humidité grimpe et cette fin d'octobre, une épaisse brume enveloppe matin et soir le mont de l'Enclus, se chargeant depuis quelques jours d'un curieux mélange d'effluves de frites et d'encens. À travers cette purée de pois, on distingue soudain, désertant leurs voitures abandonnées sur le bas-côté, des silhouettes emmitouflées, progressant lentement par grappes à travers le paysage. On s'approchait, écrivait le reporter Paul Alessandrini pour le magazine Rock & Folk. Parti de Paris, le chapiteau avait jeté l'ancre dans ses chemins boueux, dans le silence pesant de cette campagne grise. Le décor était en place. L'immense filet bâché et illuminé, où les rencontres musicales tant attendues allaient se prolonger des heures durant, contraste de frémissements, de musique en devenir. Faire coexister dans, au travers et en dedans de l'action musicale, groupe français et groupe anglais, free jazz, musique contemporaine et pop music. We'll be right back. Valentine Suite aux confins du jazz et du rock progressif, le groupe britannique Colosseum, le Colisée, formé en 1968 et qui, selon l'avis de tous, sera la première sensation du festival d'Amougy. Précisons toutefois d'emblée une chose, même si plusieurs magnétophones tournèrent plus ou moins clandestinement durant ces quelques jours, l'essentiel des enregistrements effectués à Amougy n'a depuis jamais été commercialisé pour cause de droits d'auteur non réglés. On en trouve ça et là des extraits sur Internet, souvent de piètre qualité. Les musiques que nous vous donnerons à entendre dans cette émission sont donc issues pour la plupart des versions album ou d'autres versions live de la même époque des morceaux joués ces soirs-là. 50 ans plus tard, Amougy reste encore à imaginer. Mais revenons maintenant à la genèse de cette histoire. Comment un tel déferlement d'énergie, de talent et d'encens avait-il pu recouvrir ainsi ce repli de verdure belge ? À l'origine, on trouve un Belge, Jo Demkin, qui dirige un théâtre alternatif de Bruxelles et qui, en juin 69, monte le Pop Event, un festival de pop et de rock musique à Anvers, programmant des groupes plus ou moins connus, Fleetwood Mac, The Nice, Yes, Colosseum, The Peebles, mais aussi les Belges de Wallace Collection. Les 6000 places s'arrachent si facilement que Demkin rêve de rééditer ce succès en France. Pour ce faire, par l'entremise du journaliste Jean-Noël Cogg, il approche un petit label français, Big, B-Y-G, fondé 2 ans plus tôt par Jean-Georges Akarakos, un type étonnant d'ascendance grecque et qui, avec 2 compères, réédite des enregistrements historiques de jazz, de soul ou de blues. Big est d'accord pour se lancer, à condition de mêler au groupe pop des formations de jazz, et du jazz le plus contemporain qui soit, le free jazz, cette new thing apparue quelques années plus tôt aux États-Unis. Le choix de la date est arrêté, ce sera la dernière semaine d'octobre pendant les vacances de la Toussaint. Sauf que trouver un lieu à ce festival s'avère plus difficile que prévu. Les organisateurs lorgnent d'abord les Halles, en plein cœur de Paris. Les Halles et leurs 12 pavillons signés Baltar qui, quelques mois plus tôt, ont été vidés de leurs grossistes, transférés à Rungis au cours de ce que l'on avait appelé le déménagement du siècle. Aux Halles, le public pourrait passer d'un pavillon à l'autre et profiter des bistrots et des restaurants alentours, clairement, ce serait l'idéal. Après de longues semaines, l'affaire pourtant capote. Peu à peu, il s'avère que, 1 an après les affrontements de mai 68, les autorités françaises et le nouveau ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, surnommé Ray la Matraque, ne veulent pas prendre le moindre risque avec les gauchos, les pavés ou n'importe quelle plage urbaine. Les organisateurs se retournent donc vers le parc de Saint-Cloud, aux portes de la capitale. Un accord est trouvé, suivi d'une interdiction de la préfecture. Rebelote pour l'île de Puteaux et enfin pour la pelouse de Rueil. Tout l'été 69, les édiles parisiens soufflent le chaud et le froid, mais à chaque fois, les autorités préfectorales opposent leur refus. Une demande est même faite à Lille, qui échoue à son tour. Résultat, à 10 jours de la date prévue, les organisateurs se tournent vers la Belgique voisine, où, tout l'été 69, se sont multipliés festivals et concerts mêlant rock et jazz. La ville de Tournai est approchée. Les échevins, les adjoints au maire de cette ville, sont d'accord, sauf que, le lendemain de la réunion, la presse locale torpille l'affaire en titrant « 100 000 hippies à Tournai ». Et soudain, la très catholique et bourgeoise Tournai tremble et, sous la pression des notables, son maire décline. Le porte-à-porte se teinte d'angoisse. Les organisateurs se tournent vers Courtrai, à 30 km de là, mais une nouvelle fois, après un accord de principe, les édiles locaux font machine arrière. Des demandes sont aussi lancées à Antoin, à Ruin. Le fiasco se rapproche. Finalement, c'est un journaliste de Normatin qui, exaspéré par ses refus en cascade, conduit les organisateurs chez des amis vivant dans le Hainaut, au pied du mont de l'Enclus. Là, un fermier leur cède une pâture et le soir même, le bourgmestre d'Amougy, 957 habitants, accorde son feu vert. L'affiche du festival est modifiée en catastrophe, rectifiant au tampon rouge le lieu de l'événement. Rendez-vous est donné à tous les amoureux de musique le 24 octobre 1969 à Amougy. Yes, I do. Tête d'affiche du premier soir du festival d'Amougy, le groupe britannique Ten Years After et son chanteur-guitariste virtuose Alvin Lee, qui avait triomphé en août à Woodstock avec un époustouflant I'm Going Home et qui, à Amougy, avait interprété ce Good Morning Little School Girl, reprise d'un vieux morceau de l'harmoniciste Sonny Boy Williamson et que Ten Years After avait enregistré en studio dans la foulée de Woodstock.
Au début, évidemment, il y avait des pour, il y avait des contre. La publicité qui avait été faite autour de ce festival avait été très mal faite. C'était une réunion d'hippies, n'est-ce pas? Alors évidemment, vous êtes ici dans un village qui est industriel et agricole. Alors il y a pas mal de gens qui ont dit festival hippie, c'est qu'est-ce qu'on va attraper ici? Qu'est-ce qu'on va amener ici comme populo? Mais là, je me suis fait fort de faire rectifier dans toute la presse que ce n'était pas un festival hippie, n'est-ce pas? Et c'était bien un festival de musique. Lorsqu'il se passe une kermesse chez nous, kermesse de village, eh bien, vous êtes dans une salle ou dans un café, il y a 5 fois plus de bruit que maintenant, ouais. Où ils sont à peut-être 400, 500, ouais. N'est-ce pas? Ils sont calmes, ils consomment, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ouais. C'est tout ce qui se passe. Sur la voie publique, j'ai eu l'occasion hier de parler avec monsieur le curé et le vicaire ici, n'est-ce pas? Et le doyen. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez rencontré des jeunes couples qui s'embrassent ou qui font des gestes ou qui ont des tenues, ou, n'est-ce pas, qui sont contre la morale? Ben, dit-il, j'en reviens pas. Alors il ne voulait pas rentrer sous le chapiteau. Ben, j'ai dit, monsieur le curé, venez avec moi, nous allons aller voir. Et quand il a vu que tous ces jeunes écoutaient religieusement cette musique, il a dit, je n'en reviens pas, dit-il. Parce que souvent dans mon église, j'entends chuchoter, ici on n'entend pas chuchoter. Ils écoutent la musique. Voilà exactement ce que M. le curé m'a dit hier. Alors, je suis tout à fait de son avis, d'ailleurs.
Le témoignage d'André Calbeau, le bourgmestre d'Amougy, diffusé sur France Culture le 9 novembre 1969. Calbeau qui, quelques mois plus tôt, avait fêté ses 40 ans et pour sa première mandature, ce maître chocolatier de profession se montre plein d'initiatives. Accédant donc à la demande des organisateurs français, histoire, en pleine vacances de la Toussaint, de profiter de l'afflux inespéré de ces touristes. Mais attardons-nous encore un peu sur les raisons de cet excès de frilosité. À cette époque, l'image associée à tout rassemblement rock ou bien pop, on hésite encore sur les bons termes, c'est celle des hippies, ces jeunes aux cheveux longs et gras, drogués à la marijuana ou au LSD, ces filles aux seins nus, bref, toute cette racaille pleine de vices, promouvant l'amour libre et le pacifisme béat. Depuis quelques années, le mouvement hippie génère des réunions musicales à grande échelle. Il y avait d'abord eu le très sage festival californien de Monterey au printemps 67, puis ceux, nettement plus échevelés, de l'île de Wight en août 68 et 69 au sud de l'Angleterre. Et puis, donc, en août 69 toujours, il y avait eu Woodstock et son demi-million de personnes. Sauf qu'en Europe, ce début d'automne 69, on ne mesure pas encore l'importance de Woodstock. Le film qui en sera tiré et qui assiera sa légende n'étant pas encore sorti. Il serait donc faux de penser qu'Amougy a été imaginé comme une réplique, une réponse à Woodstock. Gardons plutôt en tête que l'époque est au grand rassemblement, lesquels s'organisent chacun de leur côté, et que, plus que du précédent de Woodstock, c'est celui de l'île de Wight d'août 69 et de ses débordements largement relayés par la presse dont pâtissent les organisateurs d'Amougy.
She made things fly, she made things roll. She got me way over here and I'm hungry and cold. I remember my mother told me I ought to be choosing. That was way back when, I thought you were my friend. Now I find out she's a floozy. I remember the butterflies and the sweet smell of corn. And the bubbling fish in that little pond.
L'OVNI, Captain Beefheart et son Magic Band pour ce She's Too Much For My Mirror dans sa version enregistrée, une fois n'est pas coutume, à Amougy lors du dernier soir du festival, le 28 octobre 69. Le festival festival en tant que tel s'ouvre donc à la date prévue, le vendredi 24 octobre, avec la prestation d'un groupe signé par le label Big, Alan Jack Civilization, autour d'un certain Jacques Brault. Les premiers festivaliers sont arrivés la veille et affluent depuis par milliers. Les voitures déferlent de Belgique, mais surtout de France, guidées par les messages d'itinéraire que RTL, radio partenaire, diffuse, afin de parvenir jusqu'à ce que l'on continue d'appeler « The First Paris Music Festival ». Le préfet de la région Nord, afin d'emmerder le monde, a posté à la frontière plusieurs compagnies de CRS qui arrêtent les véhicules transportant tout ce qui s'apparenterait à un hippie, à un beatnik ou à un chevelu. Pour la petite histoire, le propre fils du dit préfet passera le week-end sur place, au milieu des effluves de Marie-Jeanne. Des cars spécialement affrétés arrivent d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas et de toutes les grandes villes de France. À Paris, des navettes assurent trois fois par jour la liaison entre la Porte de la Chapelle et Amougy. D'autres font le trajet en stop, en mobylette. Certains petits malins s'incrustent jusque dans les cars des musiciens en provenance de Lille. Les organisateurs espèrent 50 000 personnes, il en débarquera deux fois plus, sachant que le prix d'entrée est très abordable, 15 francs par jour, 60 francs pour l'ensemble, soit l'équivalent du prix de 2 33 tours. Pour accueillir cette marée inédite dans les annales du village, Amougy s'est mise en ordre de bataille. Des champs ont été aménagés en parking, à proximité d'un vaste chapiteau posé comme une soucoupe spatiale dans le pâturage d'un fermier. Une tente de 5000 mètres carrés que son propriétaire loue habituellement aux kermesses de village et qui peut contenir 15 000 spectateurs. La scène, elle, fait 200 mètres carrés. Pour trouver ceux qui y prendront place, les organisateurs ont travaillé pendant des mois. En parallèle de la recherche du lieu, ils ont multiplié les allers-retours entre Bruxelles, Paris et Londres. Certains groupes envisagés ont décliné l'offre, comme Jimi Hendrix, qui se cherche alors après sa séparation d'avec l'expérience, ou bien Eric Clapton, qui est malade. Les Rolling Stones auraient pu en être si le lieu avait été trouvé plus tôt. Mais il reste tous les autres, les 48 groupes rassemblés, parmi lesquels Pink Floyd, donc, Ten Years After, Yes, Soft Machine ou Captain Beefheart, rameutés par Frank Zappa. Le moustachu Zappa, que l'on avait invité à se produire avec ses Mothers of Invention, mais qui, son groupe venant de se séparer, est finalement venu seul. Les organisateurs lui ont réservé un statut spécial, à charge pour lui d'officier comme une sorte de monsieur loyal et de se joindre au groupe sur scène lorsqu'il en aura l'envie. Son français s'avérant approximatif, il sera remplacé au micro par un autre, se contentant de faire le bœuf quand ça lui chante. Et ce, dès le premier jour, accompagnant le lendemain la plus grosse prise du festival, les héros du rock progressif et psychédélique, les Pink Floyd, dans une version étirée de Interstellar Overdrive, cette vitesse interstellaire, publiée deux ans plus tôt lors de l'apparition du premier album des Floyd.
Et une grande première ce soir, le Pink Floyd plus Frank Zappa.
Interstellar Overdrive, que voici sans Frank Zappa, dans une version live que les londoniens avaient donnée au Paradiso d'Amsterdam le 9 août 69. Thank you. France Culture, Jukebox, ce soir 1969, les folles nuits d'Amouji. Interstellar Overdrive que les Pink Floyd donnent donc à Amouji le 25 octobre, accompagné pour l'occasion de Frank Zappa pour un bœuf resté célèbre. Pink Floyd, auréolé cette même année par la sortie de la bande-son du film More, le brûlot psychédélique et décadent signé Barbet Schroeder.
Pour moi, il faut que je n'aisse pas ça. C'est beau d'être groupé, ils n'ont pas d'ennemis. Et en même temps qu'ils sont l'un pour l'autre, on voit quand ils viennent pour acheter, l'un aide l'un l'autre à acheter, ou bien à payer ceci, cela. Et toi, tu ne dis rien? Ah ben si, tu peux dire. Pourquoi pas? Faut pas avoir peur. Mais non, ma femme a plutôt peur de ces gens, mais elle ne doit pas avoir peur.
Je n'ai pas jamais peur.
Ah tiens?
J'aimerais que ce soit leur maison.
Ah oui, mais il ne faut pas nous manger, hein.
Mais je trouve que c'est très bien.
Oui.
Parce que c'est une région qui se mourait d'eau. Donc, le commerce et l'industrie pâtissent de la récession économique. Hier, je suis passé, donc j'ai mis ma voiture à 2 km d'ici et j'ai vu passer un Espagnol. J'ai vu beaucoup d'Allemands. Chez nous, à René, j'ai rencontré 4 jeunes bariolés. Évidemment, ça fait un peu sensation en ville, mais ces gens sont très polis. Et ces gens vivent comme vous et moi, enfin. Ben, je dois dire, moi aussi j'étais un peu sceptique, hein. Ça je le cache pas, j'étais sceptique. D'ailleurs, la première fois que je suis venu, j'ai mis ma voiture loin assez. Mais, mon Dieu, maintenant, il pourrait venir acheter chez moi, bien. C'est pas pour ça que je mettrais tout sous clé, enfin.
L'afflux de tant de monde dans un si petit village n'est évidemment pas sans poser quelques défis logistiques. Pour faire dormir les festivaliers, le bourgmestre a mis à disposition des locaux communaux. Certains spectateurs se prennent, eux, une chambre dans les hôtels de la région. Les autres s'emmaillotent dans leurs sacs de couchage, à même les rues, dans les jardins, dans les foins. Les derniers roupillent carrément sous le chapiteau, se faisant parfois réveiller par les musiciens qui prennent un plaisir sadique à les piétiner tout en jouant. Pour se laver, les habitants leur louent leur salle de bain. Financièrement, c'est une aubaine. La boulangerie, par exemple, tourne jour et nuit. Les 3 cafés du village sont bondés à toute heure. La bière coule à flot. Bientôt, on manque même de pommes de terre, de mayonnaise ou de ketchup. Il faut ravitailler dardard. D'autant qu'outre musiciens, techniciens et spectateurs, la presse aussi a fait le déplacement. Des dizaines de reporters venus de toute l'Europe, des équipes de télévision américaines ou japonaises sont venus couvrir l'événement musical. Les journalistes français, eux, recherchent plutôt le sensationnel, comme ce journaliste de François qui, singeant le pire des reporters de guerre, s'appuie sur la vision d'une mitrailleuse pour s'inventer un siège. Car, contrairement à ce que certains journalistes espèrent, les hippies sont assez inoffensifs. Bien sûr, ils ont le cheveu long et gras, des vêtements à la propreté douteuse, ça sent le patchouli, ça fait de la main le V du peace and love, ça fume un peu, ici ou là, mais enfin, rien de grave, ni d'orgiaque. Et puis, à côté d'eux, il y a aussi tout un tas de petits bourgeois débarqués de Paris dans leurs voitures puissantes et qui, dans les toilettes des bistrots, troquent leur tweed bon chic bon genre contre un jean troué. Alors, faute de scandale, pour s'occuper, journalistes et radioteurs vont trouver le maire, mais aussi le curé. C'est pratique, un curé pour les reporters en panne d'inspiration, ça permet souvent de dénicher de l'opposition confortablement binaire. Sauf que là, non. Au micro de Colette Garrig pour France Culture, le curé d'Amouji s'enthousiasme.
Alors c'est un fait qu'il préfère être sous ce chapiteau et écouter du jazz qu'à remplir les églises.
Mais madame, on peut très bien chanter sous un chapiteau et faire honneur à Dieu. En chantant même l'amour, parce que l'amour c'est Dieu quand même aussi. Hein. Personnellement, j'adore les jeunes, je vous avoue franchement. Et je voudrais faire tout ce que je peux pour que les jeunes vivent complètement la jeunesse pour faire l'avenir, mais un avenir qui n'est pas évidemment toujours celui que nous-mêmes on désire.
Mais vous comprenez aussi, dites donc, qu'ils se révoltent contre cette forme de société.
Est-ce que vous croyez que c'est une révolte? Je crois que c'est à peu près comme dans l'Église pour l'instant. Il y a dans l'Église les prêtres protestataires ou contestataires, comme on les appelle. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait une contestation. Je crois qu'il y a une recherche, et une recherche de vérité.
He can with his thoughts in his hand. So follow me now and we'll find the sun.
Les Britanniques du groupe Caravan, formés en 68 du côté de Canterbury et qui, ce dimanche 26 octobre 69, enflamment le chapiteau d'Amouji avec une version de ce « Where but for Caravan would I ?» À Amouji, les concerts n'ont lieu que le soir. Dans la journée, les festivaliers roupies se baladent, partent à la recherche du seul robinet accessible de la commune pour se débarbouiller. Le dimanche après-midi, toutefois, le village est investi par une foule inhabituelle. Profitant du week-end et des vacances, des maoïstes parisiens se pointent en groupe. Ils dénoncent la non-gratuité du festival, clamant que la culture devrait être gratuite. Enfin, les photographes qui attendent depuis le début quelque chose de croustillant à se mettre sous l'objectif ont-ils quelques bonnes images à faire ? photographiant ou filmant le célèbre Mouna, l'agitateur pacifiste clochard plus ou moins céleste de mai 68 qui, circulant à vélo, harangue la foule, prêchant la bonne parole, répétant à qui veut l'entendre sa devise préférée « Les temps sont durs, vive le mou !» Rien de méchant, et la centaine de gendarmes discrètement dépêchés de Charleroi ne sortira pas de son cantonnement improvisé dans l'école du village. Quant au Mao, désireux d'accéder au chapiteau, un compromis est finalement trouvé. Ceux qui ne peuvent vraiment pas payer pourront accéder au festival, mais un peu plus tard dans la soirée. Symbole à l'instar de l'Art Ensemble of Chicago, du free jazz donné à entendre à Amouji, Archie Shepp pour ce Howling in the Silence mis en boîte en studio cette même année 69 et que le saxophoniste délivre à Amouji la nuit du dimanche. Souvenir du journaliste Jean-Noël Cogg, extrait de son livre « Autant en emporte le rock » paru au Castor Astral en 2001. Le spectacle s'achève au petit matin, dans le froid et le brouillard givrant qui recouvre la campagne, les voitures, le chapiteau où une partie du public, emmitouflé dans des duvets, tombe de sommeil et s'endort. Derrière la scène, les musiciens se réchauffent tant bien que mal auprès des souffleries bruyantes qui, 24 heures sur 24, envoient une chaleur mazoutée. On perçoit le ronflement incessant des groupes électrogènes. Dans un chapiteau voisin, on fait la queue pour se restaurer. Un steak dur, des frites huileuses pour un prix exorbitant. À Amouji, c'est aussi cela. Une odeur de frites, de gazole et de café chaud. Thank you.
She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, cause she's got no place to fall. The law can't touch her, she's nobody's child.
Tête d'affiche de la soirée du dimanche 26 octobre, le groupe The Nice pour ce She Belongs to Me dans une version live enregistrée au Fillmore East de New York en avril 1969. Je crois qu'on ignore toujours,
ou enfin d'ignorer les problèmes des jeunes. Je crois que c'est très 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 grave, parce que maintenant il y a des moyens de communication qui nous permettent de ne pas les ignorer. Et là encore, il y a une grave erreur qui se produit. Pourquoi maintenant autorise-t-on ce festival? Pourquoi à l'Olympia, il y aura-t-il 6 jours de pop musique la semaine prochaine?
Mais là, tout à l'heure, vous avez attaqué un peu les vieillards. Dans 40 ans, 50 ans, vous serez un vieillard.
Justement.
Vous serez comme les autres.
J'espère, et je fais très très attention, d'essayer de toujours rester dans le coup. C'est-à-dire, si j'attaque les vieillards, j'attaque surtout une frange de vieillards qui ne s'intéresse pas du tout aux problèmes des jeunes. Les gens qui prennent les décisions sont des gens qui ont les cheveux blancs. Et c'est eux qui gouvernent le sort, c'est eux qui dirigent et qui organisent les loisirs de ces jeunes. Et je ne vois pas en quoi un festival de musique, et je l'ai prouvé en faisant venir 200 000 personnes à Amouji, donc je ne vois pas en quoi 200 000 jeunes peuvent effrayer 50 millions de personnes.
Archive France Inter, le 31 décembre 69, au micro de Jacques Chancel, Jean-Georges Caracos essayant de rester dans le coup et gonflant par la même un peu les effectifs de son festival. Par la suite, pourtant, les grands concerts connaîtront des difficultés, tandis que le festival d'Altamont en Californie vient de dégénérer. L'édition de 70 du festival de l'île de Wight souffrira de son gigantisme, incapable de digérer ses 600 000 spectateurs et de payer ses artistes. Ce sera d'ailleurs le dernier organisé sur l'île britannique. En France également, l'été 70, un nouveau festival est bien organisé à Biote, dans les Alpes-Maritimes, par le même Georges Acaracos. L'affiche s'annonce belle, Pink Floyd, John Baez, Clapton, mais après quelques heures, l'édition sera interrompue après que des milliers de spectateurs sans billets se soient mis à escalader les barrières et que des énervés aient coupé les câbles de retransmission radio. Quant à Amouji, si le festival s'était déroulé sans problème de sécurité financièrement, cela avait été une autre affaire. Ces 30 millions de francs de déficit faisant d'ailleurs, quelques années plus tard, plonger le label Big. Le long métrage filmé sur place, réalisé par Jérôme Lapérouzaz et Jean-Noël Roy, ne sera d'ailleurs montré qu'une semaine à Paris le printemps suivant, avant que les Pink Floyd ne réclament et n'obtiennent son interdiction. Georges Acaracos ayant omis de s'entendre avec les musiciens quant au versement de leurs droits d'auteur. Cette mésaventure participera à faire tomber ce festival dans l'oubli. Le mot de la fin au journaliste Stéphane De Taille, présent à Amouji en octobre 69 et qui, des années plus tard, racontera au quotidien Le Soir. Fin octobre, les derniers curieux ne laisseront derrière eux qu'un immense rectangle de terrain glabre. L'empreinte éphémère de ce qui n'avait été qu'une escale dans la grande pérégrination hippie. Le village, lui, hébété, sortait d'un rêve. Le carrosse bigarré redevenait citrouille. L'hiver venait. La légende naissait.
And shoulders, you were thinking, bastard, you bastard. When I woke up in the morning, saw your face upon the pillow, where you dribbled in the night like a baby, and the way you gripped the sheets around your head, above your soft and fragile body, then I wanted to stay with you forever. And I touched your naked eyelids where the makeup had been smudged, and then your cheeks around your mouth, and then you stretched your legs and arms and curled them up again, tucked up inside the bedclothes, and looked up and gave a dirty little smile. So as I peeled off sheets and blankets and you slowly turned onto your back, I touched your thighs and kissed you on the neck. You slid your fingers down my back and pulled me over you, and I knew then that I just wished I
could be with you forever.
C'est sur cette Instant Pussy signée du groupe Soft Machine, également présent à Amouji, que se referme ce numéro de Jukebox ce soir. Amouji 1969, le Woodstock franco-belge oublié. La réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox. Merci à Brice Couturier de nous avoir soufflé l'idée de cette émission, à Chouchen Djergaillan et à Antoine Villos pour leur préparation, ainsi qu'au service de l'INA. À lire l'ouvrage de Jean-Noël Cogg, Autant en emporte le rock, paru au Castor Astral. À la technique ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.